Bonjour à tous et puis merci de m'avoir accueilli. Hein. Je suis très heureux hein, de participer à ce séminaire puisque c'est assez rarement finalement que j'ai l'occasion de parler de ces travaux dans un cadre universitaire. Hein. C'est plus souvent actuellement dans le cadre de journées d'études organisées par des associations caritatives ou des colloques organisés par exemple par la MSA, hein, la Mutualité Sociale Agricole, que j'ai l'occasion de m'exprimer. Donc, je vais avec vous peut-être avoir un angle d'approche différent par rapport à celui que vous avez l'habitude d'avoir. C'est l'angle d'approche de l'analyse au départ, l'analyse des politiques sociales, puisque moi au départ, j'ai fait des travaux de sciences politiques et ce n'est que dans un second temps que je me suis intéressé aux politiques sociales et puis à la sociologie. Hein. Donc j'ai eu un parcours un peu atypique. Donc ma porte d'entrée, c'est au départ l'analyse des politiques sociales en me posant comme question, voilà, c'était lorsque j'étais étudiant, 1993-14, les années passent, eh bien on parle beaucoup de l'urbain, on parle des problèmes dans les banlieues sensibles, et puis on parle très peu de la pauvreté dans nos campagnes actuellement. Donc, ce vaste chantier hein, est tout à fait encore inachevé. Donc, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques réflexions un petit peu d'ordre théorique. Je vais reprendre quelques éléments qui figuraient dans mon livre, hein, qui est paru aux presses universitaires du Mirail, et dont je prépare actuellement la seconde édition. Donc, ça sera l'occasion pour moi de vous présenter quelques données réactualisées portant sur les étalons de mesure de la pauvreté en milieu rural. Donc, les phénomènes de pauvreté et d'exclusion, vous savez que ce sont à présent un domaine de recherche en sciences humaines. Hein, donc, sachant qu'on dispose d'une littérature très abondante, nous pourrions spécifier quatre approches qui sont autant de façons de construire l'objet. Une première approche, eh bien, on pourrait la qualifier d'approche socio-historique. Donc, ces approches socio-historiques replacent l'étude des phénomènes de pauvreté dans une perspective de longue durée. Elles nous renseignent également au sujet de l'organisation des sociétés et de les révolutions au cours du temps. Deuxième approche, les approches monétaires. Alors, les approches monétaires, elles s'en tiennent essentiellement au temps présent, puisque nous nous fondons essentiellement sur ce qu'on appelle les seuils de pauvreté. Donc, le calcul des seuils de pauvreté, donc c'est 50% ou 60% du salaire médian, hein, selon la convention que l'on adopte, et cela permet actuellement, surtout, d'effectuer des comparaisons internationales, et on le verra, ça permet aujourd'hui de pouvoir faire un distinguo entre le rural et l'urbain, mais cela fait très très peu de temps qu'on sait le faire. Donc les approches monétaires, elles sont intéressantes pour cette raison-là, pour faire des comparaisons internationales, mais elles permettent également de mesurer des inégalités de revenus entre catégories socioprofessionnelles, et on sait hein, que les agriculteurs sont l'une des catégories socioprofessionnelles pour lesquelles les revenus sont les plus faibles, mais également la catégorie pour laquelle on a calculé l'indice de Gini, hein, c'est-à-dire une dispersion des revenus qui est importante. C'est-à-dire que nous avons à la fois, et je ne vous apprends rien, des gros agriculteurs et des petits agriculteurs. Nous avons une agriculture très développée et puis nous avons une forme d'agriculture de complément ou de survie. Troisième approche, les approches institutionnelles. Donc ces approches institutionnelles se sont beaucoup développées depuis une vingtaine, une trentaine d'années, hein, sous l'impulsion de commandes publiques, la CAF au niveau national, hein, donc la CNAF, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, ainsi que la MIR, hein, la Mission Interministérielle Recherche-Expérimentation, ont joué un rôle très important hein, depuis ces 20 dernières années dans le financement de recherches visant à évaluer les politiques sociales. Partant de là, on peut repérer des groupes cibles de l'action sociale, comme par exemple les familles monoparentales, ou les jeunes en difficulté d'insertion, ou les chômeurs de longue durée, ou encore les allocataires du RMI, et partant de là, faire une évaluation, essayer de connaître leur parcours, leur trajectoire. Donc ces approches institutionnelles se sont beaucoup développées ces dernières années et apportent un éclairage sur des catégories de population qui sont considérées comme en situation de pauvreté ou à problème. Les approches qualitatives, enfin, un quatrième type d'approche, eh bien, utilisent des outils spécifiques. Donc, nous, les sociologues, nous utilisons des récits de vie, des entretiens, des enquêtes de terrain. Donc, tout cela, bien entendu, donne des éléments de connaissance au sujet du mode de vie des plus pauvres et des renseignements au sujet de leur vie quotidienne. Cela permet également d'identifier des facteurs de risque, de repérer des trajectoires, et cela donne des clés de compréhension au sujet des mécanismes d'exclusion. Enfin, des travaux réalisés en psychologie sociale et en anthropologie donnent un complément utile au sujet des situations de rupture et de désocialisation. Donc, lever un voile sur ces logiques nous conduit d'ailleurs souvent à dégager des mécanismes qui produisent de l'exclusion, tout en allant au-delà d'une seule interprétation de données statistiques portant sur le revenu des ménages ou l'inégalité des chances. Mieux comprendre nos contemporains, une société qui doute d'elle-même, tel était finalement le défi que je m'étais lancé lorsque, il y a un certain nombre d'années déjà, et contrairement à ce que l'on pensait souvent à l'époque, eh bien, j'osais croire que la pauvreté et les problèmes sociaux n'étaient pas une question urbaine logés au pied des blocs de béton, hein, et qu'il existait en France des situations méconnues ou cachées. En l'occurrence, même si les processus d'exclusion ont fait l'objet de multiples études, la littérature sociologique aborde trop rarement ces dimensions territoriales, et lorsqu'elle s'y hasarde, elle les confond trop souvent avec la question du malaise des banlieues. De même, quand on songe à la campagne, nous sommes très enclins, ou du moins l'opinion publique, nous sommes très souvent enclins à idéaliser un style de vie au contact de la nature, et même si on sait que les effets de la crise agricole ont des incidences sur les économies locales, nous aurions trop souvent tendance à souligner l'existence de solidarités locales ou à focaliser notre attention sur la situation spécifique des agriculteurs. Les propos convenus y contribuent, parce que les paysans sont les garants d'une tradition. Leur disparition annoncée est un thème récurrent du discours politique, au risque d'ouvrir la voie à des spéculations qui dépassent parfois l'entendement. Pour étudier plus sérieusement la pauvreté en milieu rural, il est possible de déceler les facteurs qui, sur le temps long, auraient contribué à dissoudre les liens sociaux et à creuser les inégalités. Parmi les facteurs les plus souvent retenus par les spécialistes, les facteurs économiques jouent un rôle prépondérant, car ils affectent directement les statuts et les positions de chacun. On retrouve ces mécanismes dans la plupart des secteurs d'activité, et l'agriculture n'échappe pas à cette règle. Les observateurs du monde rural le savent parfaitement, et ils n'ont pas hésité de le dire à l'occasion de différentes rencontres ou dans le cadre de publications. Par exemple, à la suite de la publication d'un colloque qui avait été organisé à Toulouse par l'Association des ruralistes français, l'ARF, et des études réalisées par des chercheurs de l'INRA, notamment Gwenaël Géguzot, Jean-Louis Brangeon et autres, à la station d'économie et sociologie rurale de Rennes, mais également celle de Dijon, on pourrait raisonnablement penser que la pauvreté en milieu rural dévoilerait la face cachée du développement. Grâce à différents indicateurs statistiques, on sait en effet qu'une frange de la population agricole vit encore très modestement et qu'il existe en France de grandes disparités territoriales. Dans les régions les moins dynamiques, le regain démographique se fait encore attendre, et on sait désormais que le taux de pauvreté y est légèrement supérieur à celui que l'on mesure dans les grandes agglomérations. Cela étant dit, il est nécessaire de tenir compte des nouvelles fonctionnalités de l'espace rural et de replacer les indicateurs dont on dispose dans le cadre d'une évaluation plus globale des politiques publiques mise en œuvre depuis ces 20 dernières années. Faisant appel à des sources d'informations très diverses, notre grille de lecture, on va la commenter rapidement, proposée ici est discutable, on peut l'affiner bien entendu, puisqu'elle ne décrit pas le mode de vie des plus pauvres, mais elle offre, me semble-t-il, l'intérêt d'offrir un aperçu d'ensemble des différents critères sur lesquels on se fonde pour repérer les destinataires de l'action publique en tenant compte des situations locales et des problèmes spécifiques des agriculteurs. Donc, si, en gros, on prend les trois définitions, merci beaucoup, de l'espace rural, on peut dire il s'agit d'un espace de production économique hein, dans lequel l'agriculture est fortement présente. Il s'agit aussi d'un ensemble de communautés locales disposant d'une autonomie relative, avec l'interconnaissance et autres. Et en même temps, on aurait tendance aussi à confondre l'espace rural avec un paysage, mais un paysage qui a été travaillé par les hommes. Hein. Donc, puisque finalement, le paysage aussi retrace l'histoire des hommes. Bon. Si je prends la régulation sociopolitique du monde rural, qui ne figure pas ici, si je prends par exemple l'espace de production économique, si je me place du point de vue de la sociologie politique, qu'est-ce que je vais étudier ? Je vais étudier les relations qui se nouent, par exemple, entre l'État, la profession agricole, l'Union européenne, les agriculteurs, vous voyez tout ça. Hein, donc nous avons une régulation de type global sectoriel. Hein, donc c'est Pierre Muller qui l'un des premiers a fait cette distinction-là. Tandis que si nous sommes dans un rapport à la localité, eh bien nos travaux de sociologie politique vont plutôt s'intéresser à la relation centre-périphérie. Donc nous aurons toute une série d'études, notamment sur les pouvoirs locaux, qui vont montrer comment, finalement, dans les communes rurales, eh bien, il y a une certaine autonomie relative. Donc, si nous avons le paysage, et nous n'avons pas ici les mêmes acteurs, donc nous avons les usagers de l'espace rural, donc nous pouvons très bien avoir les habitants de ces espaces, mais nous pouvons également avoir les randonneurs, les chasseurs, les associations de défense et de protection de l'environnement, etc. Donc nous avons des acteurs qui sont tout à fait différents par rapport à cette représentation de l'espace rural. Si je reprends les différentes politiques et dispositifs, nous avons une politique sociale agricole qui, comme vous le savez, est distincte de celle du régime général. Hein, les agriculteurs et les ouvriers agricoles, enfin les salariés agricoles, bénéficient d'un régime de protection sociale, que ce soit en matière de santé, de retraite ou même de prestations familiales, qui est distincte du régime général. Donc nous avons une protection sociale agricole avec également des indicateurs de pauvreté, avec des revenus professionnels, ce sont les travaux des chercheurs de l'INRA de Rennes, qui montrent justement que nous avons des disparités de revenus importantes et on peut isoler à l'intérieur de ces populations-là les personnes qui sont suivies dans le cadre des procédures agriculteurs en difficulté et qui ont des taux d'endettement importants. Donc dans cette population agricole, nous avons à la fois des agriculteurs qui se sont lourdement endettés et nous avons également une petite paysannerie hein, qui vit modestement grâce à de la production agricole ou d'élevage, mais aussi grâce, on le verra tout à l'heure, à des pensions de retraite ou à des pensions d'invalidité. Et donc cette population était estimée à peu près à 400 000 personnes à la fin des années 70, début des années 80, dans le cadre des travaux de Guanel Gégouzeau et Jean-Louis Brangeon. Donc, vous voyez, hein, on peut mettre en regard un petit peu les définitions de l'espace rural, quelques exemples de politiques et de dispositifs, et puis des indicateurs de précarité. Au niveau du rapport à la localité, là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce sont essentiellement des géographes qui se sont saisis de cette question-là, notamment les personnes qui travaillent avec Nicole Mathieu, qui viendra dans le cadre de votre séminaire, du laboratoire STRAT, hein, l'Université Paris 1, l'Institut de géographie, qui avait réalisé les premières études, notamment sur l'évaluation du dispositif en milieu rural, et qui, partant de là, ont réalisé parfois des études ciblées sur tel et tel territoire. Donc, quand on recoupe, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des problèmes pour constituer des séries longues. Quand on recoupe ces faisceaux d'indices, comme par exemple les taux de chômage, ou encore des indicateurs démographiques, des données relatives aux prestations sociales, des indicateurs aussi provenant de la Direction générale des finances publiques, hein, la DGI, la Direction générale des impôts, on peut isoler les territoires dans lesquels il y a le plus de personnes qui sont en dessous des bas revenus ou le plus de personnes qui, des foyers non imposables. Hein. Donc, on verra tout à l'heure avec les cartes, hein, on verra que au moyen de données cartographiées, eh bien, nous avons toujours la permanence de la diagonale du vide, mais également nous avons le nord de la France et le sud de la France. En gros, la carte de France à la pauvreté, c'est un Z comme Zorro. Au-dessus donc de la Normandie, en gros, en partant d'ici jusqu'aux Ardennes, en allant vers le nord, une bande de territoire qui part des Ardennes et qui va jusqu'aux Pyrénées, avec le gros du Massif central, le Poitou-Charentes, le Limousin, jusqu'aux Pyrénées, et puis ensuite après le sud de la France, où là on a des problématiques un peu différentes. Si bien on s'intéresse au paysage, bon ben là, ce sont plutôt des symboles, hein, la friche, le désert, hein, c'est un petit peu plus difficile là de parler de pauvreté. Hein. Donc voilà un petit peu la première grille, hein, qu'on pourrait avoir. Alors parmi les indicateurs à notre disposition, les dimensions monétaires de la pauvreté sont probablement les plus faciles à mesurer. Hein, grâce à des outils statistiques performants, il est désormais possible d'isoler des populations situées sous l'échelle des bas revenus et d'affiner notre connaissance des groupes cibles de l'action sociale. De même, grâce à des données provenant de l'administration fiscale et des organismes sociaux, nous pouvons isoler des populations et puis faire une évaluation des politiques qui sont mises en œuvre pour leur venir en aide. Alors, il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a moins d'un an, un rapport a été rendu à l'administration par une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour recueillir des informations plus précises au sujet de la pauvreté et des processus d'exclusion. Alors, ce document qui est en ligne, hein, sur Internet, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez très facilement le retrouver. Alors, ce document a été réalisé donc à la demande des pouvoirs publics et confirme l'existence d'un développement inégal des territoires ruraux. Il apporte de nombreuses informations au sujet des populations les plus fragiles, évalue l'impact des programmes d'action sociale et formule un certain nombre de préconisations. Donc, après avoir réactualisé toute une série de données, s'être rendu sur le terrain, donc la mission s'est rendue sur 5 territoires, donc les auteurs de ce courageux travail se sont intéressés à différents sujets comme l'emploi, le logement, la couverture médicale, la présence des services et des équipements publics. Ils sont également parvenus à mesurer l'ampleur de la pauvreté en milieu rural et ont pu constater que le taux de pauvreté était légèrement supérieur en milieu rural qu'il ne l'était en milieu urbain. Donc en 2004, hein, c'est les seules données disponibles, vous voyez, ils ont rendu en 2009, 13,7% de la population rurale vivait sous le seuil de pauvreté contre 11,3% dans l'espace urbain. En fait, il existe de véritables poches de pauvreté avec des taux de pauvreté au niveau des bassins ruraux pouvant atteindre 20% dans une série de départements. Vous voyez, si on prend le taux de pauvreté par département, indépendamment, hein, urbain plus rural, au niveau national, nous avons bien le nord, nous avons une partie de Frange, et ici nous avons le sud. Quand nous avons la pauvreté rurale, eh bien, nous avons encore plus toutes ces zones ici centrales, avec un taux maximal de 21,6% qui atteint dans le Cantal et 20 et quelques pourcents en Corse. Trois ensembles géographiques peuvent être en effet distingués à la lecture de ce document. Au nord d'une ligne fictive reliant la Picardie aux Ardennes, le taux de pauvreté est toujours supérieur à la moyenne nationale, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et bon nombre de petites villes en déclin, vous le savez, ont été les premières victimes de la désindustrialisation et des délocalisations. Dans ces régions, les documents réalisés par les travailleurs sociaux font généralement état des difficultés de reconversion professionnelle chez les ouvriers privés d'emploi et du faible niveau de qualification des jeunes. Ils mentionnent l'absence de mobilité géographique et soulignent leurs difficultés à se projeter dans l'avenir. dans une vingtaine de départements situés sur ce qu'on a, les géographes appellent, la diagonale du vide. Le taux de pauvreté est en général supérieur en milieu rural qu'il ne l'est en milieu urbain. Ces bassins de vie correspondent à des régions marquées par l'élevage, mais ce sont également des espaces assez isolés qui ont été longtemps concernés par le dépeuplement et l'exode. Même s'ils ont bénéficié de financements européens en vue de se doter de projets structurants pour redynamiser l'économie rurale, donc les gestionnaires du développement rural doivent encore souvent faire face aux conséquences du vieillissement démographique. Au regard des données dont nous disposons, nous pouvons affirmer qu'en raison d'une économie tournant parfois au ralenti, les pensions de retraite et d'invalidité ont pu y jouer un rôle de redistribution non négligeable. Plus au sud, c'est-à-dire en gros de Lourdes à Ajaccio, en passant par le Midi Viticole et puis les arrières pays du Languedoc et de la Provence. Donc ces régions sont bien entendu les plus attractives de toutes. Et donc aujourd'hui, nous avons tout type de population qui s'installe. Donc les gestionnaires de l'action sociale doivent trouver les moyens d'améliorer les conditions de vie de tous ceux qui, à la suite d'un choix délibéré ou d'un événement personnel, ont décidé de s'installer à la campagne ou au soleil sans y avoir toujours préalablement trouvé un emploi durable. Donc ces nouveaux arrivants, dont la presse se fait parfois l'écho, rencontrent fréquemment des difficultés financières et connaissent alors une réelle précarité, puisque nous avons des taux de chômage qui sont ici dans le nord et ici dans le sud les plus importants de la France, alors qu'ici nous avons plutôt des personnes qui sont handicapées ou des personnes âgées avec des taux de chômage qui sont relativement faibles. Il existe cependant dans ces régions des possibilités, c'est-à-dire une série de petits boulots saisonniers dans le secteur du commerce, du bâtiment et de l'agriculture, récolte des fruits et légumes, vendanges. Alors, ces précisions faites, quelques éléments caractérisent les situations précédemment décrites et font apparaître le caractère très hétérogène des populations concernées. À la campagne, la pauvreté ne concerne plus seulement des exploitants agricoles ou des personnes âgées vivant avec le strict minimum, elle concerne tout aussi bien des ouvriers victimes des licenciements économiques et de l'industrialisation, des familles monoparentales, des couples qui avaient fait le choix de vivre au grand air, ou encore de jeunes gens qui ne parviennent pas à stabiliser leur parcours professionnel. En somme, de nouvelles formes d'insécurité sociale sont apparues et le monde rural a profondément évolué depuis ces 20 ou 30 dernières années. Ces évolutions sont unanimement repérées par les travailleurs sociaux et soulèvent des questions de fond qui nous obligent dès le départ à ne pas opter pour une lecture trop linéaire du changement social. Ces quelques éléments ne sauraient suffire pour étudier la pauvreté et les facteurs d'exclusion. Dans la mesure où le monde rural intéresse des spécialistes provenant de différents horizons disciplinaires, il faut faire appel à plusieurs éclairages théoriques pour tenter de comprendre les déterminants et les manifestations d'un phénomène de société qui commence à peine seulement à être véritablement relayé par les grandes associations caritatives et par les médias. Cependant, de nombreuses recherches ont été consacrées aux transformations du monde rural français et permettent de formuler des hypothèses de travail. La sociologie rurale s'est très souvent intéressée à la place occupée par les agriculteurs dans la société française. Des historiens sont parvenus à produire une connaissance précise au sujet du fonctionnement des sociétés paysannes. Grâce à leurs recherches sur le terrain, des ethnologues ont collecté toute une mine d'informations à propos de l'économie cachée de la parenté. Ils s'intéressent aussi bien aux structures agraires qu'à la vie collective. Plus récemment, des économistes se sont penchés sur les dimensions financières de la crise agricole et ont introduit l'idée d'une agriculture à plusieurs vitesses. Quant aux géographes, nombreux parmi les ruralistes, ils ont confectionné une batterie d'indicateurs pour délimiter des espaces ruraux en déshérence. Même si on aurait trop souvent tendance à assimiler la distance sociale à une distance spatiale, ils n'ont pas hésité à réaliser des monographies locales et à proposer une théorisation d'ensemble des inégalités de développement. Quels que soient les outils mobilisés, il faut tout de même bien reconnaître que les manifestations contemporaines de la pauvreté en milieu rural sont un sujet relativement peu étudié par la communauté universitaire. À l'exception, et Mme Bonnet-Randy a dû vous le dire l'autre jour, des travaux qui avaient été coordonnés par Pierre Maclouf, ou encore des modélisations proposées par les équipes de Gwenaëlle Jégouzeau à l'INRA, ou encore de Nicole Mathieu au laboratoire Strad de Paris, on s'est trop longtemps contenté de collecter des données chiffrées sur des populations ou des territoires précis, sans trop vraiment décrire les conditions des ménages qui y résident. De même, on a très longtemps assimilé la question de la pauvreté en milieu rural avec le problème spécifique du dépeuplement des campagnes. Comme le soulignait déjà Alfred Sauvy dans les cahiers de l'INED quelques années après la Libération, ce phénomène est en fait bien plus complexe qu'on ne saurait l'imaginer et il devrait être expliqué en faisant appel à plusieurs paramètres. Si on s'en tient à ce raisonnement, il faudrait formuler l'hypothèse selon laquelle les espaces périphériques ont été délaissés pendant un certain temps parce qu'ils n'offraient aucun avenir aux jeunes générations. De même, on pouvait penser à cette époque que les règles relatives à la transmission du patrimoine avaient eu des incidences sur les destins collectifs et les éléments d'explication les plus convaincants étaient ici d'ordre culturel. C'était notamment le cas de la question du célibat paysan. On expliquait souvent le célibat paysan par rapport aux structures de transmission, aux modélisations de transmission du patrimoine. On expliquait tout cela par rapport à tout un ensemble de courants de recherche qui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait un courant pluridisciplinaire avec la démographie, avec l'histoire économique, avec tout cela. Bien, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des éléments structurels et des éléments conjoncturels. On voit bien les éléments structurels. La France, la carte de France de la pauvreté, correspond tout de même un peu toujours à cette France de la pauvreté qu'on pouvait délimiter dans les travaux des historiens, des géographes, et des économistes, des démographes il y a une vingtaine d'années. À ceci près que, à ces populations, je dirais traditionnelles, sont venues se greffer de nouvelles problématiques et de nouvelles populations. Donc il faut tenir compte à la fois de ce qu'on pourrait appeler une pauvreté traditionnelle et puis des manifestations contemporaines de la précarité économique. Alors, parmi ces manifestations un peu anciennes, ces éléments traditionnels, il y a bien entendu la question du célibat paysan. Je ne vous apprends rien. Le célibat paysan est un indicateur, bien entendu, des règles de transmission de patrimoine. On relit Bourdieu, on voit les stratégies matrimoniales, on repère des territoires, notamment des zones d'élevage, dans lesquelles ce célibat paysan est toujours fortement présent. Petit à petit, ces célibataires, on les retrouve maintenant où ? Eh bien, on les retrouve toujours à la tête d'exploitation, mais on les retrouve également dans les dispositifs mis en place du type RMI ou RSA aujourd'hui. C'est-à-dire que peu à peu, toute cette frange de population a glissé peu à peu des statuts nés du travail vers les statuts nés de la pauvreté assistée. Et il a fallu malheureusement un certain temps avant que ces personnes acceptent l'aide de la collectivité. Parce que, y compris quand on prend l'histoire de la mutualité sociale agricole, la protection sociale agricole, les agriculteurs ont mis un certain temps avant d'accepter de cotiser, avant d'accepter finalement de participer à cette redistribution qui était la sécurité sociale. Et donc, pour cette raison-là, et on va le voir, c'est très net, pour cette raison-là, l'aide de la collectivité intervenait essentiellement au moment du passage à la retraite. C'est-à-dire que quand on prenait les populations cibles de l'aide sociale en milieu rural, nous avions essentiellement des personnes âgées qui percevaient le minimum vieillesse. Or, cette population, elle est en déclin notable. C'est-à-dire que si on prend par exemple le régime agricole, au milieu des années 70, il y avait près d'un million de retraités du régime agricole qui percevaient le minimum vieillesse. Ce chiffre était donc de 900 000 en 1975, 405 000 en 94 et seulement 100 000 en 2004. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. Là, on peut le voir à l'aide d'une pyramide des âges, une pyramide des âges que j'avais eu l'occasion de confectionner au service de la mutualité agricole à Paris, qu'il faudrait refaire, ça toujours pareil, eh bien, vous voyez, il y a ben, maintenant 15 ans, nous avions essentiellement des femmes, bien entendu, puisqu'elles elles avaient très faiblement cotisé, et nous avions des personnes qui étaient nées avant la guerre de 14. Hein, bien entendu, ici, c'est la guerre de 14. Donc, inexorablement, cette population a baissé, et si on prend les données relatives à la pauvreté de 1970 à aujourd'hui, puisque c'est la seule série longue que nous ayons, eh bien, le taux de pauvreté en France, il a globalement baissé. Pourquoi ? Parce que le nombre de personnes âgées ayant de faibles retraites a baissé. Par contre, la pauvreté a augmenté chez les jeunes. Donc, en gros, on a eu un basculement de la pauvreté des générations les plus âgées vers les générations les plus jeunes. Donc, en milieu rural, nous avons bien entendu toujours des personnes âgées qui bénéficient de petites retraites. Mais cette population qui bénéficie du minimum vieillesse, ben, elle est en voie d'extinction. Elle est en voie d'extinction, sauf pour les anciens ouvriers agricoles qui, bien entendu, dans les années qui viendront, bénéficieront de ce dispositif-là. Donc, en fait, hein, l'aide à l'égard des personnes nécessiteuses intervenait d'ordinaire au moment de l'ouverture des droits à la retraite. Exemple typique d'une solidarité entre les générations introduite par le législateur dès 1956, le minimum vieillesse a contribué à l'indépendance du troisième âge et dans les petites communes rurales, il a notamment bénéficié aux femmes d'agriculteurs qui avaient faiblement cotisé pour prétendre disposer d'une retraite convenable après le décès de leur époux. Aujourd'hui encore, hein, ces populations très très âgées hein, sont surreprésentées parmi les retraités du régime agricole. Alors, le montant du minimum vieillesse a été revalorisé à plusieurs reprises, de sorte que les retraités qui en bénéficient ont amélioré leur pouvoir d'achat et que leurs revenus sont donc comparables, sinon parfois légèrement supérieurs, au seuil de pauvreté. Alors, plus récemment, la mise en place de l'APA, hein, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, et la reconnaissance de la dépendance a également amélioré la situation financière des retraités, mais l'impact de ces nouvelles mesures doit être relativisé. D'après les travaux conduits par la mission de l'IGAS, justement, les personnes âgées ayant de faibles pensions et qui vivent en milieu rural sont très attachées à leur patrimoine familial et certaines d'entre elles préféreraient en fait se détourner de ces prestations légales plutôt que d'accepter la règle de la récupération sous succession qui pénaliserait leurs enfants au moment de leur décès. Donc, en gros, le nombre de personnes bénéficiaires du minimum vieillesse est en baisse, mais en fait, parfois, les gens qui pourraient y prétendre ne le font pas. Donc, en milieu rural, le minimum vieillesse n'est plus, bien entendu, le seul instrument mis à la disposition des travailleurs sociaux, car ici comme ailleurs, on a observé un basculement de la pauvreté des générations les plus âgées vers les générations les plus jeunes. Un phénomène qui traduit concrètement une dégradation des conditions de vie des salariés. Cela étant dit, bon nombre de travailleurs sociaux soulignent l'isolement dans lequel se trouvent les personnes âgées. Hein? Alors, même si ce problème d'isolement, il est surtout lié à la démographie médicale. Hein? Alors, vous le savez, hein, les espaces ruraux sont relativement bien couverts par les infirmières libérales, mais le manque de médecins et de spécialistes est criant, et l'inquiétude est réelle pour les personnes âgées qui sont isolées chez elles, qui ont des enfants qui habitent loin, qui ne peuvent pas se déplacer. Hein, l'inquiétude est réelle pour devoir se rendre régulièrement chez un spécialiste. Hein, donc, le problème, il s'est déporté, je dirais, de la pauvreté matérielle vers la question de l'isolement et de l'accès aux soins. Alors, ces difficultés liées à une moindre présence médicale renforcent le sentiment d'isolement dans lequel se trouvent les plus fragiles, et c'est tout particulièrement le cas chez les personnes âgées, on vient de le voir, mais aussi chez les personnes porteuses d'un handicap. Et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins sans une aide extérieure. Mise en place hein, avec la loi de 75 hein, relative aux personnes handicapées, eh bien, l'allocation aux adultes handicapés avait également permis à bon nombre de familles rurales qui avaient peu de moyens hein, de pouvoir bénéficier d'un secours. Puisqu'avant même le RMI, finalement, l'allocation aux adultes handicapés a servi de canal de redistribution. Donc, à la lecture des données qui émanent des caisses de protection sociale, eh bien, on se rend compte que, tout de même, hein, le nombre de ménages qui bénéficient de prestations de solidarité, eh bien, on les retrouve, et on peut affiner encore, on les retrouve essentiellement dans ces zones centrales. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup de personnes âgées, nous avons beaucoup de personnes bénéficiaires de la pension d'adulte handicapé. Ici, nous avons beaucoup de personnes qui sont au RMI ou aujourd'hui au RSA, idem pour les zones du Nord. Malgré l'introduction hein, de revenus de substitution au travail ou de substitution ou d'aide hein, pour des populations qui sont inaptes à l'emploi ou invalides ou ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins par leur propre labeur, certaines catégories de populations sont particulièrement vulnérables. Il s'agit bien entendu des personnes âgées, des handicapés, des travailleurs vieillissants, mais il s'agit aussi de jeunes gens qui attendent un certain temps avant de rejoindre le monde du travail ou qui ne parviennent pas à trouver un emploi conforme à leurs aspirations. Alors, la différence qu'il y a aujourd'hui hein, par rapport à une vingtaine d'années, c'est que globalement, les jeunes ruraux envisagent moins facilement de quitter leur village d'origine. Et donc, certains restent au pays hein, sans avoir forcément des moyens de trouver un emploi. Et ça, c'est la grande différence entre aujourd'hui et il y a 20 ou 30 ans. C'est que dans la mesure où on a du chômage élevé à peu près partout, hein, les jeunes gens peuvent décider de rester à proximité de leur famille. Et bien entendu, ceux qui partent, ce sont les plus déplumés ou ce sont les catégories sociales, socio-professionnelles les plus favorisées. Alors, les observations que j'avais eu l'occasion de recueillir sur le terrain, voici déjà 10 ans, hein, vous voyez, c'est déjà un peu ancien, confirment et complètent les analyses qui viennent rapidement d'être énoncées. Dans les villages et les hameaux dans lesquels je m'étais rendu, alors je m'étais rendu dans le département de la Nièvre, hein, qui est un département qui n'est pas très riche, hein, où on a un taux de pauvreté assez élevé, hein, où on a des usines qui ont fermé, où on a un élevage bovin, un habitat également dispersé avec un problème d'isolement. Hein, donc dans ces villages et hameaux, il existait en fait plusieurs figures de pauvreté, autant de situations que les travailleurs sociaux et les administrations locales étaient bien en peine de résorber avec les moyens qui étaient les leurs. Alors, les situations qualifiées de traditionnelles concernaient principalement des exploitants et des ouvriers agricoles dégageant de faibles revenus, des retraités percevant le minimum vieillesse et des personnes souffrant de handicaps reconnus. La plupart des temps, ces personnes sont bien intégrées à la vie locale. Mais surtout, ce qui les caractérise, c'est qu'elles auraient tendance à intérioriser de façon douloureuse leur statut social et qu'elles auraient tendance également à attendre assez ou trop longtemps avant d'entreprendre des démarches et faire valoir leurs droits. Certes, ces personnes vivent avec le strict minimum et parfois elles peuvent compter sur de l'entraide familiale ou inscrire leurs activités quotidienne dans le cadre d'échanges de services avec des voisins ou des amis de longue date. Mais cette solidarité locale, elle a un revers, parce que dans certains cas, elle crée des situations de dépendance, des dépendances à l'égard des voisins, de la famille, et parfois également une forme de hiérarchie ou de mise en place sociale au sein même de la famille. Cette question, elle est importante, parce que on a une pluralité de configurations familiales et au bout d'un certain temps, le problème se pose, notamment lorsque les parents décèdent. C'est-à-dire que il est encore fréquent, par exemple, d'héberger un enfant ou un frère ou une sœur ou quelqu'un de la famille qui se retrouve en difficulté ou qui est au chômage ou qui a divorcé ou qui a un problème, une maladie grave. Il peut, le problème se pose au décès des parents. C'est-à-dire, que faire au moment du décès? Là, véritablement, il y a des situations de rupture qui peuvent arriver et qui peuvent se manifester par des addictions, par un isolement. Globalement, ces espaces enclavés ou isolés peuvent s'avérer être anxiogènes. Et dans les situations les plus extrêmes, et bien entendu, on a des effets importants de la précarité économique ou de la pauvreté matérielle sur la santé, et y compris sur la santé mentale. Les gens essaient finalement de s'adapter tant bien que mal à ces situations en déployant des micro-stratégies. Donc, partant de là, j'ai proposé une typologie qui distinguerait trois ensembles de populations. Un premier type de population qu'on pourrait appeler les employables immédiats. Alors eux, généralement, ils ont des ressources, ils ont des supports qui leur permettent assez rapidement d'intégrer le monde du travail. Donc on les retrouvait dans les dispositifs du type RMI. Aujourd'hui, on les voit bien dans le RSA, revenu justement d'activité. Donc ce sont des employables immédiats. Donc, dans cette population-là, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons également des jeunes femmes qui alternent des périodes travaillées et des périodes chômées. Nous avons une population que j'ai qualifiée de fragile, en reprenant la catégorie de Serge Pogam, qui se caractérise par une intériorisation douloureuse du statut social, par une forme de dépendance par rapport à la famille, une forme d'enfermement aussi dans la situation. Donc, nous sommes proches, dans certains cas, de la situation de chômage total que décrivait Dominique Schnapper dans ses premiers travaux sur le chômage. Et enfin, il y a des personnes qui, finalement, s'adaptent tant bien que mal à ces situations-là et qui réagissent un petit peu contre l'ordre social établi. J'ai utilisé la métaphore des rebelles pour les qualifier avec, bien entendu, on a un patchwork, là, on a tout aussi bien des agriculteurs qui essaient de s'en sortir, que des néo-ruraux qui vivent un petit peu en marge de la société, qui se développent, qui aiment la musique, l'artisanat d'art. Enfin, vous voyez, on n'est pas autant des chèvres, mais il y a un peu l'idée de la recherche de l'utopie, du bien-être personnel et d'un style de vie qui est finalement un petit peu en dehors des cadres sociaux communément admis. Bien. Donc, dans ces communautés rurales, finalement, est-ce que cette pauvreté, c'est une misère de position? Oui et non. On a certains éléments qui nous disent, nous avons une misère de position parce que on a une forme de reproduction de certains itinéraires, de famille en famille, de génération en génération. Certes, mais nous avons également de nouvelles situations qui correspondent à de la précarité économique, à de la du précariat, pour reprendre l'expression de Robert Castel. Il y a également une référence à ce qu'on appelait autrefois l'inadaptation sociale, c'est-à-dire que les personnes dans les villages, pour désigner les gens qui sont en difficulté, parlent souvent de l'arriération mentale, d'une adaptation sociale. C'est-à-dire qu'il existe des croyances populaires ou un savoir profane qui est distinct du savoir académique et qui aurait en fait pour but à la fois de désigner mais aussi de se protéger. Je pense à tous les travaux qui ont été réalisés par Denise Jodelet. Donc finalement, la référence implicite à l'inadaptation sociale, à l'arriération mentale, est relativement présente encore dans les propos des personnes. Et finalement, elle renvoie à la distinction que nos sociétés et l'essence sociale ont longtemps établie entre le normal et le pathologique. En somme, les frontières du handicap sont très poreuses, les problèmes de santé et les difficultés matérielles se cumulent lorsque nous avons affaire à des individus sans support. Or, pour étudier cette période d'instabilité au cours de laquelle les repères se brouillent, nous pourrions admettre, comme c'est le cas dans certaines recherches portant sur le handicap, que chaque ensemble culturel serait en mesure de proposer des représentations du monde, des modes de prise en charge et des interactions. Ces biais culturels orientent finalement l'attitude des individus et semblent indiquer que que la dureté des conditions de vie ne saurait se limiter à une liste de besoins non satisfaits. Alors, parmi les personnes qui ont été rencontrées, que j'ai rencontré à peu près 250 personnes. Bien entendu, je n'ai pas pu traiter tout le matériau. Je restais 2 ans sur le terrain. Alors, les personnes fragilisées par la maladie et celles qui étaient atteintes d'un handicap étaient probablement les plus vulnérables, car leur statut n'était pas toujours forcément bien établi. Bien qu'elles fassent l'objet d'une attitude relativement bienveillante de la part de la population locale, ces personnes occupent une position inconfortable qu'elles vivent douloureusement. J'ai eu malheureusement l'occasion de l'observer en réalisant cette enquête de terrain. Il existe des situations parfois extrêmes pour lesquelles les outils du sociologue ne suffisent plus. À la campagne, les exemples ne manquent pas. Finalement, c'est plutôt dans les familles qu'on perçoit cette dureté des conditions de vie. Dans certains cas, par exemple, il n'est pas rare que la personne qui soit au chômage ou qui soit en situation de handicap soit traitée d'incapable, par exemple. C'est un incapable. Ou encore qu'elle soit infantilisée. Dans ces familles résolument traditionnelles, il y en a encore, on observe parfois encore des inégalités de traitement entre les aînés et les plus jeunes, entre les hommes et les femmes. Cette donnée fondamentale a été observée à l'occasion de bon nombre d'entretiens. Des hommes, par exemple, m'ont confié sans retenue qu'ils avaient séjourné en prison, consommé de l'alcool en abondance ou vécu dans la rue. Mais peu nombreuses étaient les femmes, puisque moi je suis un homme, qui abordaient des sujets relevant de leur intimité ou de leur santé. En fait, pour recueillir leur témoignage, il m'a été parfois nécessaire de concevoir des lieux séparés ou des rendez-vous à des moments différents pour pouvoir savoir ce que l'un et l'autre me disaient et pouvoir apprécier la situation. Donc, à l'insu de leur conjoint, leurs propos en disaient long sur les souffrances endurées et les difficultés matérielles auxquelles elles avaient été confrontées. Le deuxième enseignement que l'on peut retirer concerne justement les effets de cette souffrance au quotidien sur les relations sociales et familiales. Si on considère souvent qu'à la campagne, les solidarités familiales et de voisinage compensent un sentiment d'isolement, il est nécessaire en fait de tenir compte de repères temporels ou de différents paramètres, comme notamment l'aptitude au travail, qui est finalement un axe très important par rapport à laquelle se structurent les ordres de jugement. Dans les cantons donc, où je me suis rendu, j'ai été particulièrement frappé par l'existence de situations que l'on aurait cru avoir totalement disparues. En fait, nous observons une dégradation domino pouvant conduire à une véritable exclusion des réseaux sociaux, marquée par un sentiment de solitude, d'abandon et d'isolement. Au fur et à mesure que les individus glissent sous la trappe de la grande pauvreté, ils ont bien entendu tendance à vivre à l'écart de la société. Mais cette pauvreté, elle est souvent silencieuse ou cachée. Donc la métaphore, c'est plus la métaphore de la détention que la métaphore de la relégation ou de l'exclusion. Donc tels des détenus qui mènent une existence recluse, ces personnes sont coupées ou se coupent elles-mêmes du reste du monde, et à ce stade de la disqualification sociale, il n'est pas rare que des ruptures se produisent lorsque survient un événement grave, décès d'un proche, maladie, ou lorsque le célibat ou le problème d'inactivité ou tout ce que vous voulez, tout cela se prolonge. Les effets de la pauvreté matérielle sur la santé, et en particulier sur la santé mentale, sont bien réels, et dans les cas les plus extrêmes, certains se tournent vers la nature ou encore se replient totalement sur eux-mêmes. Dans ce cas, et je l'ai vu, on ferme les volets de sa maison ou on ne laisse qu'une fenêtre ouverte. Les plus démunis vivent reclus, ils se tairent. Le travail de l'enquêteur devient alors une opération consistant à enregistrer une plainte, un cri. Je vais vous livrer une observation qui est reproduite dans le livre sur la pauvreté en milieu rural. Bon, cette famille, je l'ai appelée la famille aorte. Bon. Cette famille aorte, elle est composée du père, 77 ans, de son épouse, 67 ans, donc 10 ans de moins que lui, et de l'un de leurs fils, âgé de 41 ans donc au moment de l'entretien, et handicapé à différents titres. La famille est logée dans une petite maison composée de deux pièces. Dans la première pièce se trouve la table et un canapé où dort le père. Visiblement l'été, il dort dans la grange. Dans la seconde, un lit où dorment visiblement la mère et son fils. Une cuisinière qui fonctionne mal. La famille n'a l'eau courante à l'extérieur de la maison que depuis quelques années seulement. Il n'y a pas de WC. Le jour de l'entretien, Madame Aorte revenait de l'hôpital où elle avait subi une opération à cœur ouvert. Alors que je me trouvais avec son fils, elle entra dans le logement et ouvrit son corsage de manière à me montrer sa cicatrice. Elle n'osait croire en la réussite de l'opération. Le père de famille garde sa retraite sur son compte à lui, ou la boit. Il serait très violent. Ça va maintenant, à 77 ans, il est sourd, un peu gâteux, mais il aurait tendance à boire, a-t-elle dit. Passant devant la porte, juste avant d'arriver, c'était la seule ouverture du logement, le vieil homme m'avait demandé d'ailleurs de pousser la voiture en brandissant son poing. Sa femme m'a indiqué tout simplement, ne faites pas attention, il perd un peu la boule. Madame Aorte vit avec la pension d'invalidité de son fils, qui avait reçu un choc violent au cours d'un accident de la route. C'était en 1976. Sans travail, le fils et sa mère connaissent la misère la plus noire pendant 4 années, c'est-à-dire avant que de multiples démarches ne soient faites pour reconnaître le handicap et verser une pension, après un premier rejet de la Cotorep et des lettres de contestation. Après qu'il ait perdu la tête, il a fallu demander au docteur, le kiné, le maire de... Il lui a fait 110 séances, il est resté 7 mois dans le lit. Il fallait laver comme un bébé, fatalisation. Il se faisait dessus. Et puis tout d'un coup, il s'est levé, s'est mis à marcher. C'est comme s'il naissait une seconde fois. D'abord, il marchait avec des béquilles. Mais maintenant, il tremble. Il a peur. Je dois encore lui mettre les chaussettes, puisqu'il n'y arrive pas lorsqu'elles sont trop serrées. L'homme présente différentes pathologies que, véritablement, personne ne semble connaître. Autrefois, il n'arrive pas vraiment à se reporter dans le temps, mais il était capable de discuter avec moi pour la thèse, pour le recueil d'un entretien. Il avait suivi une scolarité normale. Il m'a dit qu'il avait fait une 4e technologique au CEG, ça rappelle. Il avait appris un métier chez le même patron comme menuisier. Aujourd'hui, il voudrait être une personne, m'a-t-il dit, même s'il se compare aux petits chiots avec lesquels il passe le plus clair de son temps. Moi, je suis donné, je suis né à Aulnay. On est venu ici pour l'école. Des fois, les journées sont longues. J'aimerais une petite voiture. Vous savez, les voitures sans permis. Mais ma mère ne voudrait pas. C'est à elle qu'il faut demander. C'est elle qui s'occupe des papiers. Moi, j'aime vivre avec la nature, avec les animaux. La seule chose, c'est que j'aimerais avoir une petite voiture pour aller faire des commissions, voir un peu de monde. La mère, elle ne veut pas. Alors, là, il se fixe. Il faudrait nous demander une petite aide, nous donner une petite aide, pardon. Le père, il ne veut pas faire de jardin. Des voisins nous donnent des choses, des fois. Et moi, je voudrais bien bricoler, mais je ne peux pas. Regardez, on donne, on montre une espèce d'humeur. J'ai sorti un verre de pu, un verre. Maintenant, je ne comprends pas, j'ai mal au coude. Je ne peux pas bouger le bras. Ils veulent couper, mais moi, je ne veux pas passer sur le billard. J'y suis passé déjà. Je voudrais bien bricoler, faire des choses à la maison, mais je tremble, j'ai peur. Quand je me suis vu comme ça, incapable de me lever, 7 mois allongé, j'ai réussi à remarcher, mais maintenant je tremble, je suis un incapable, mais je voudrais être une personne parce que... Est-ce que vous croyez que je suis un imbécile? Si, mais si je ne suis plus un imbécile, il faudra que je travaille. C'est pas possible avec tout ça. J'aimerais, mais croyez-moi, je ne suis pas capable. Je sors pas, je bouge pas, c'est pas possible. La mère, un peu plus tard, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, parlera un petit peu de l'avenir. Moi, je trouve que nous sommes vraiment isolés. Le premier commerce, il est à, on cite le nom du village, qui est à 10 km. Le médecin, lui, il est à 18 km. Ils aimeraient justement habiter dans cette petite ville où il y a le commerce, où il y a le médecin. Mais ils ont toujours vécu là. Puis dit, il aime la nature. Puis il reprend. Je suis content de l'opération. J'ai été bien soigné. Je me dis que c'est plus important que je sois là pour lui que de vivre avec un sol en ciment. Sinon, qu'un sol en ciment. Vivre avec un sol en ciment, ce n'est rien. Vivre comme ça, sans confort, on a l'habitude. Je ne veux pas être une gâcheuse. Mais voyez ces petits chiots, il y en a un qui fait pipi dedans, il y en a un qui est mort. Ça le rend triste. Alors je ne veux pas le contrarier. Donc vous voyez la dureté des conditions de vie, ces stratégies de survie, ces formes d'isolement à l'extrême, cette question aussi des déserts médicaux, de l'isolement, de l'accès. La pauvreté, ce n'est pas simplement la pauvreté matérielle, c'est aussi la distance par rapport aux équipements publics. Alors, en rencontrant cette famille, nous retrouvons bien sûr des scènes de grande pauvreté qui, malheureusement, existent encore aujourd'hui, même si, heureusement, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais nous pouvons également observer une intériorisation douloureuse d'un statut. Dans ce cas, nous observons, bien entendu, que ces personnes particulièrement fragiles ont plus difficilement accès à un accommodement social et qu'elles vivent sous l'emprise de leur famille. Elles ont le sentiment de vivre sous une chape de plomb et expriment le sentiment de ne guère pouvoir évoluer de façon autonome. Un élément tout à fait remarquable lorsqu'on reprend les notes et les extraits d'entretien, notamment pour les situations d'extrême pauvreté, réside dans la manière dont elles perçoivent le fonctionnement des administrations de la société en général. À l'image d'un modèle panoptique, le modèle de Michel Foucault, le panopticum de Bentham, plutôt repris par Foucault, qui serait capable d'exercer une microphysique du pouvoir et de maintenir l'ordre social en état, elles imaginent souvent que la société et les institutions forment un système qui serait capable de contrôler, de surveiller leur comportement. Leur crainte des pouvoirs établis est renforcée par le fait qu'en percevant des prestations sociales, ces personnes doivent témoigner d'un véritable effort d'insertion pour continuer à bénéficier d'un minimum garanti. Alors, fort heureusement, les plus pauvres parviennent à s'adapter tant bien que mal à ces situations contraignantes. Dans la mesure où leur est difficile d'intégrer rapidement le monde du travail, ils doivent apprendre à faire prévaloir leurs droits. Cependant, les relations qu'ils établissent avec les travailleurs sociaux ne vont pas forcément toujours de soi et procèdent tantôt de l'échange, tantôt du conflit. Quand le déclassement se heurte à l'honneur, on apprend donc les règles implicites de l'assistance, on en contourne d'autres et on aménage des espaces de liberté en lisière des sentiers balisés. Même si nous ne sommes jamais à l'abri d'appréciations subjectives, de telles pratiques nous invitent à penser que, selon leur univers culturel de référence ou leur position sur le marché du travail, les comportements des individus, leur mode d'adaptation varient sensiblement. Je renvoie là, bien entendu, à la typologie. Alors, nous avons des formes d'adaptation et de résistance aux stigmates. On a vu là, nous avons des cas de pauvreté un petit peu extrêmes, mais fort heureusement, nous avons tout de même des personnes qui parviennent à faire face et à s'en sortir. Nous avons des personnes qui utilisent les ressources de l'environnement immédiat. Nous avons également des personnes, celles que j'avais qualifiées un petit peu de rebelles, qui n'hésitent pas à avoir des projets un peu alternatifs et qui restent au RMI ou au chômage un certain nombre d'années avant de pouvoir concrétiser leur projet professionnel. Donc, bien entendu, nous avons là une pluralité de situations, et il ne faudrait pas non plus résumer la pauvreté en milieu rural au témoignage que je viens de donner tout de même. Alors, parmi les populations qui, en milieu rural, font l'objet d'une attention tout soutenue, nous avons les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on fait l'objet de dispositifs spécifiques liés aux procédures agriculteurs en difficulté. Cela étant dit, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ces dernières années, les revenus agricoles ont fortement baissé. Globalement, nous avions nous avons, vous voyez, une réduction relative hein, de la pauvreté chez les agriculteurs, avec tout de même près de la moitié des exploitants agricoles qui ont des revenus inférieurs au SMIC. Alors, entre-temps, vous allez me dire, il y a eu une amélioration, ils étaient 47 000, non plus 15 000. Oui, mais entre-temps, l'ensemble est a baissé de 438 000 à 300 000, hein, autant d'exploitations qui ont disparu. Alors, cette relative amélioration des revenus au cours des années 90, donc, ne doit pas nous faire oublier que bon nombre d'exploitations n'ont plus retrouvé de repreneurs ou ont été en faillite. Ici, nous voyons, il y a une étude qui a été réalisée pour 2003, 2004, 2005, 2006, puisqu'à partir des années 2000, là par contre, on a eu une dégradation de la situation financière des agriculteurs, avec hein, différentes crises hein, que vous connaissez. Hein. Il y a eu la crise des producteurs de lait récemment, il y a eu la crise viticole, il y a eu le problème de la vache folle, etc. Donc, chaque secteur, finalement, d'agriculture a été touché. Donc, quand on reprend et on agrège sur 4 années le pourcentage d'individus qui sont sous le seuil de pauvreté au moins 3 années sur 4, donc 2003, 2004, 2005, 2006, donc au moins 3 années sur ces 4, nous avons un taux de 20,8% chez les agriculteurs, c'est-à-dire un taux qui est à peu près comparable à celui des ouvriers non qualifiés. Alors, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est de parler de la situation des ouvriers agricoles. Alors, les ouvriers agricoles, comme vous le savez, les bases statistiques se recoupent très rarement. Si on prend les populations INSEE, les personnes qui déclarent être ouvriers agricoles comme activité principale, nous avons 300 à 400 000 personnes, alors que nous voyons, il y a 1 700 000 personnes en France tous les ans qui ont un contrat de travail dans l'agriculture. Donc sur ces 1,7 million de personnes, bien entendu, tout le monde n'est pas couvert par la mutualité sociale agricole, parce que ce sont par exemple des étudiants ou des femmes au foyer ou qui sont au régime général. Donc du même coup, l'évaluation, c'est très difficile à faire, hein, puisque on voit très bien qu'on ne peut pas véritablement connaître leur parcours et leur trajectoire. Ce qu'on peut savoir tout de même, c'est que les travailleurs occasionnels de l'agriculture sont notamment présents dans secteurs d'activité comme la viticulture, où nous avons, c'est le tableau d'en dessous, nous avons un pourcentage de travailleurs occasionnels qui atteint 80%, mais quand même, c'est tout de même 70% d'exploitation qui ont recours à des travailleurs occasionnels. Hein. Donc, en gros, on pense toujours, quand on pense, y compris au monde agricole, on pense aux chefs d'exploitation, mais il ne faut pas oublier non plus que le secteur agricole est un secteur qui recrute une main-d'œuvre. C'est-à-dire que certaines économies locales ont besoin d'une réserve de main-d'œuvre, hein, donc finalement d'un taux de chômage élevé pour pouvoir fonctionner. Hein. Donc, il est important, vous voyez, également, de tenir compte de cette situation-là. Donc, pour conclure, quels sont les leviers d'actions qui sont repérés? Donc, parmi ces leviers d'action, nous avons des aides qui sont destinées aux agriculteurs, on l'a dit, mais il y a également un accompagnement dans le cadre du travail social classique. Hein. Et donc, ces personnes, notamment ces ouvriers agricoles, sont généralement des personnes qui bénéficient, dans certains cas, hein, d'un accompagnement, mais pas forcément. On les retrouvera certainement dans les populations couvertes par le dispositif RSA. On le voit bien, hein, le monde rural n'est pas toujours un bassin de vie dans lequel les solidarités locales viendraient atténuer la dureté des conditions d'existence. Alors, depuis ces dernières années, d'importantes organisations se sont mobilisées en vue de constituer un groupe de réflexion capable de faire des propositions auprès des pouvoirs publics en vue de lutter plus efficacement contre la pauvreté rurale. Alors, à l'occasion de ces journées de réflexion ou encore de petites publications dans la presse spécialisée, on n'hésite plus à mettre en avant les problèmes spécifiques du monde rural et à vouloir rendre visibles des situations longtemps méconnues ou cachées. Il en est de même des situations extrêmes nécessitant la mise en place de secours d'urgence. Qu'est-ce qu'on propose ? En gros, de manière à inverser la tendance, les associations caritatives proposent de développer des antennes mobiles pour distribuer des colis alimentaires ou d'organiser la mise en place de transports à la demande. Hein, donc, ce système est à peu près testé à peu près partout en France. Et l'idée, c'est finalement de poursuivre autant qu'on le peut, de renforcer les médiations, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes continuent à faire valoir leurs droits. Ça, c'est le premier levier, je dirais. Et c'est très, très important, c'est-à-dire être au plus près, c'est-à-dire repérer les situations qui étaient méconnues ou cachées. Le deuxième levier, c'est un couplage entre l'accompagnement social et le suivi des professionnels de santé. Hein, on a vu qu'il y a des situations où la pauvreté, on ne sait pas si c'est la pauvreté matérielle qui engendre des problèmes de santé ou si c'est l'inverse. Donc là, il y a, bien entendu, un champ important hein, d'investigation. Il faudrait évaluer tout ça. Hein, il faudrait le faire. Enfin, autre levier, les programmes de rénovation de l'habitat. Alors là, il y a eu quand même des améliorations sensibles au niveau des conditions de vie. Quand on prend, je prends notamment les travaux de la mission de l'IGAS, on voit qu'il y a eu tout de même ces dernières années une amélioration sensible du confort des logements. Donc là, quand même, il y a eu une amélioration importante. Un autre levier, je terminerai par là, c'est la question de l'accueil des nouveaux arrivants. Alors globalement, les attitudes par rapport à ces nouveaux arrivants qui sont parfois au chômage ou autre, l'attitude des populations locales, ben, elle est un petit peu ambivalente. Hein. C'est-à-dire que certaines personnes considèrent qu'ils redonnent vie à des lieux abandonnés depuis longtemps, tandis que d'autres personnes soulignent un style de vie peu conformiste. Alors, en fait, ce qui est important, et là, ils commencent à avoir des réflexions également là-dessus, c'est les projets qu'ils élaborent. Leur modèle, c'est pas le modèle du travail salarié, c'est plutôt le modèle du travail indépendant. Donc, il y a un certain nombre de personnes chargées de mission qui sont là et qui aident les personnes dans la concrétisation de leur projet parce que ces personnes-là veulent s'installer à leur compte. Donc ça, c'est une autre piste qui est poursuivie. Et également, le fait d'essayer de mettre en lien l'insertion des publics en difficulté, notamment des jeunes en difficulté, et le développement rural. Voilà, en quelques mots, quelques remarques sur ce travail. Je vous remercie.